Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le système d'information géographique libre QGIS, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Le Libre fait sa com sur l'association Carte ONG spécialisée en gestion de l'information, et aussi la chronique À cœur vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi sous le magasin d'application F-Droid. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Abani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'April est april.org, A-P-R-I-L.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le mardi 19 octobre 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonny. Bonjour Étienne.
Salut Isa.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique Le Libre fait sa com, qui aujourd'hui porte sur Carte ONG, une organisation non gouvernementale spécialisée en gestion de l'information et qui diffuse une grande partie de ses ressources sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Nous avons avec nous aujourd'hui Martin Noblecourt, responsable des projets participatifs et Open Data chez Carte ONG. Martin intervient via l'outil libre de vidéoconférence Mumble. Bonjour Martin.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de Carte ONG. Bah, pour commencer, je te propose de nous présenter déjà Carte ONG. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses objectifs? En quoi ça consiste?
Bien, merci pour l'invitation. Donc, je vais présenter rapidement Carte ONG. Donc, Carte ONG, c'est une association qui est basée en France, à Chambéry, qui a été fondée en 2006 et qui a pour objectif d'utiliser les outils de la gestion de l'information, notamment géographique, donc la cartographie, mais pas que, au service de projets de solidarité. Donc, au départ, c'était beaucoup des projets de solidarité internationale, essentiellement humanitaire. On travaille toujours beaucoup avec des grandes ONG comme Médecins Sans Frontières ou plusieurs agences des Nations Unies. Et petit à petit, ça s'est ouvert à des projets de plus long terme, voire à des projets qu'on pourrait qualifier de social en France. Donc maintenant, on essaie de couvrir, on va dire, tout le champ de la solidarité et d'appuyer différentes organisations associatives ou publiques avec donc nos outils qui vont de l'édition de cartes à la collecte de données sur le terrain, en passant par l'organisation d'ateliers de cartographie participative, etc. Et donc Carte ONG étant une association, à la fois une équipe permanente qui travaille donc on va dire plutôt pour les grandes organisations qui contribuent à notre financement, mais aussi une équipe de bénévoles, ce qui nous permet de venir en aide à des petites structures qui n'ont pas forcément de budget pour ça.
Merci pour cette présentation. La première question que j'ai à l'esprit, c'est comment ils faisaient avant, les ONG avant 2006, avant que Carte ONG existe?
Bon, de toute façon, quand on travaille sur des outils de type SIG et cartographie, les gens, ils se débrouillaient toujours avant et même ils se débrouillent toujours avec d'autres moyens actuellement. C'est-à-dire que c'est très rare qu'on fournisse une carte à une organisation sur le terrain qui ne puisse pas se déplacer sans, puisque les gens qui travaillent pour les ONG sont essentiellement des personnels locaux, ce qui est très bien, et donc ils connaissent leur propre territoire. Donc nous, ce qu'on amène, c'est plutôt des outils supplémentaires en termes d'analyse, de remontée d'informations, qui permettent d'avoir plus de vues d'ensemble, d'aller plus vite et aussi de faciliter la coopération entre acteurs.
Donc si j'ai bien compris, vous appuyez en fait sur les acteurs locaux pour la récolte, on va dire, des informations, et puis voilà, à Chambéry, vous apportez votre expertise pour compléter.
Nous, on est vraiment ce qu'on appelle une ONG support, c'est-à-dire que c'est pas nous qui développons le fond des projets. On va aider des organisations qui vont travailler, par exemple, sur des thématiques médicales ou sur de l'aide alimentaire ou sur des projets d'environnement. Et en fait, on leur amène des outils pour être plus, on va dire, efficaces, plus complets, plus inclusifs, dans leur travail. Donc après, ça va dépendre vraiment des thématiques. Nous, on s'adapte. Et en fait, la plupart de ce qu'on fait concrètement, c'est de la formation. C'est-à-dire qu'on accompagne ces organisations, on les aide à définir leurs besoins, à comprendre, à identifier les outils qui leur sont utiles. On les forme, on les accompagne. Des fois, on les aide un peu dans la mise en œuvre. Et puis après, elles sont censées se débrouiller pour utiliser ces outils durablement dans la mise en œuvre de leurs activités.
Et si vous allez sur le site de Carte ONG, on a mis la référence sur la page consacrée à l'émission, vous pouvez voir que c'est vraiment, vous avez des projets dans tout le monde. On avait dit que vous mettez la plupart de vos ressources sous licence libre Creative Commons attribution CC BY. Pourquoi ce choix, même si je m'en doute bien, mais c'est important de le rappeler, je pense. Quelles sont les ressources que vous mettez sur CC BY et pourquoi?
Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on fait systématiquement cette demande à nos bailleurs et partenaires, c'est-à-dire que quand on développe de la documentation, de pouvoir la publier en licence libre. Donc ils l'acceptent dans la très grande majorité. Les rares fois où on ne fait pas ça, c'est parce qu'il y a des dimensions un peu de confidentialité ou de vie privée. Et en fait, on a fait ce choix-là déjà parce que ça nous paraissait naturel, en fait, pour en faire bénéficier au plus grand nombre. Et puis en plus, étant une association, donc même quand c'est des partenaires ONG qui nous financent, la quasi-totalité du financement qu'on reçoit, c'est de l'argent public, en fait, directement ou indirectement. Donc ça nous paraissait aussi tout à fait naturel que ce soit remis au service de l'intérêt général. Donc effectivement, on a depuis quelques mois, on a lancé un portail qui s'appelle le IMPort, donc comme Information Management Portal, qui rassemble petit à petit, on est en train de compiler toute notre documentation et normalement toutes les ressources qui sont dessus sont sous licence libre.
Merci. Nous allons rajouter cette référence. Elle n'y est pas encore, mais vous avez déjà un lien pour ce portail, j'imagine, ou pas encore?
Oui, voilà. Bon, après, cet outil-là est quand même plutôt destiné à un public professionnel. D'accord. Du secteur humanitaire, on va dire.
D'accord. Oui, je m'en doute bien. Donc, pour faire la cartographie, vous utilisez un outil dont un projet, une initiative dont on a parlé à déjà plusieurs reprises de notre émission, qui est OpenStreetMap. Donc, je voulais te demander, c'est quoi le lien entre Carte ONG et OpenStreetMap? Comment s'articulent vos relations?
En fait, ce qu'il faut voir déjà, c'est qu'OpenStreetMap est un projet qui est énormément utilisé à l'international. Je pense que ça, vous avez déjà eu l'occasion d'en parler, parce qu'il permet de compléter en fait et de remplir l'absence en fait dans de nombreux pays de bases de données géographiques existantes de qualité. Donc au-delà en fait de l'aspect, on va dire, philosophique, c'est déjà opérationnellement une nécessité pour énormément d'organisations qui travaillent dans le secteur de la solidarité internationale. Donc, pour nous, c'était un petit peu un choix naturel, on va dire. Au-delà de ça, ça fait depuis plusieurs années en fait qu'on essaie de soutenir l'écosystème OpenStreetMap, donc dans la mesure de nos moyens. Il y a de très nombreuses organisations en fait aujourd'hui dans l'humanitaire qui utilisent, qui soutiennent, qui appuient OpenStreetMap. C'est d'ailleurs assez débattu, hein. C'est un écosystème très très riche, on va dire. Et donc au niveau de Carte ONG, ça a pris la forme notamment d'une participation à un projet qui s'appelle Missing Maps, qui, comme son nom l'indique, vise à cartographier les endroits dans le monde où il n'y a pas de données, en utilisant OpenStreetMap plutôt pour dans une logique, on va dire, de préparation aux catastrophes et de projets de développement. C'est-à-dire qu'on va être sollicité par soit un acteur humanitaire international, soit par une organisation plus locale qui va nous dire « j'ai besoin de données cartographiques sur mon territoire ». Et donc on va cartographier à distance ce qu'on peut et les appuyer pour collecter la donnée sur place.
Missing Maps, c'est un projet qui est né à l'initiative de Carte ONG ou vous l'avez rejoint?
Non, au départ, c'est une initiative de Médecins Sans Frontières, de plusieurs branches de la Croix-Rouge et d'une ONG qui s'appelle Humanitarian OpenStreetMap Team, qui est justement spécialisée sur la thématique, qu'on a rejoint assez rapidement. Et en fait, c'est un peu devenu le réseau, on va dire, des acteurs humanitaires qui veulent soutenir OpenStreetMap. Après, encore une fois, la richesse d'OSM, c'est que donc vous avez une fondation OSM qui est un peu le truc tutélaire qui régule, on va dire, le projet. Mais en fait, c'est extrêmement divers. Vous allez avoir plein de groupes locaux, en fait, dans le monde entier, donc y compris beaucoup de communautés OpenStreetMap qui se sont développées dans les pays qu'on dirait du Sud. Et donc, nous, généralement, quand on développe un projet, on essaie au maximum de se connecter avec cette communauté locale, de la soutenir et de la mettre en avant vis-à-vis des acteurs locaux, notamment institutionnels, parce que c'est toujours un combat, en fait, pour ces acteurs d'avoir une visibilité et de paraître crédible vis-à-vis de leurs acteurs institutionnels nationaux. Mais en fait, il y a aussi une foultitude d'entreprises privées, d'ONG, etc., qui utilisent ce projet. Donc, c'est vraiment la logique du commun numérique qui fait qu'en fait, on peut se retrouver dans certains pays à avoir des entreprises comme Apple ou Facebook qui cartographient sur OpenStreetMap à côté de grandes ONG internationales, d'agences gouvernementales ou de la communauté de base. Chacun a un peu sa perspective en fait sur le projet, son approche. Le modèle de données étant très libre, en fait, on peut aussi venir y ajouter des informations qui intéressent plus ou moins tel angle. Par exemple, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur l'accessibilité ou sur ce genre de choses. Mais en fait, à côté de ça, vous pouvez avoir des usages aussi tout à fait privés. Et normalement, tout le monde met au pot commun et ça se régule. Donc, parfois un petit peu avec du conflit, mais la licence donc ODBL d'OSM permet de réguler tout ça normalement.
Notre émission raconte liberté informatique et raconte aussi, donne des idées pour agir, pour les personnes qui souhaitent contribuer. Et l'intérêt du projet Missing Maps, c'est que n'importe qui peut contribuer, ou je me trompe?
Oui, effectivement. Donc on utilise les outils OSM et on utilise de préférence les plus accessibles. Et donc on organise des événements qui s'appellent les Mapathons. Donc CartoNG, on organise normalement à peu près toutes les semaines, c'est le lundi soir en ligne. Et on en fait aussi régulièrement en présentiel. Il y en a un ce soir à Lyon par exemple. Et puis on essaie de faire un peu, on tourne en France en fait, il y en a à peu près un par mois. On en fait aussi régulièrement en université pour sensibiliser les étudiants. Et donc pendant ces événements, en fait, on vous apprend à utiliser les outils de base d'édition sur OpenStreetMap, donc en éditant sur de l'imagerie satellite, en fait, donc ce qu'on voit à distance. Et ça fait en fait une première initiation qui permet nous à la fois de sensibiliser sur le travail qu'on fait, les causes qu'on soutient et l'usage de la cartographie, de faire découvrir OpenStreetMap en fait au plus vaste public, et on espère aussi comme ça mobiliser des gens qui deviendront des bénévoles, qui ensuite se formeront, on va dire, sur des outils plus avancés de collecte, donc à la fois de collecte terrain, de travail à distance, et puis même après d'aller plus sur des outils du SIG et d'analyse cartographique plus avancés.
Tu as parlé des événements à distance. J'ai vu sur votre rapport d'activité 2020 qui est super bien fait. Hein. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte de CartoNG, je vous recommande vraiment de le consulter. Que finalement la pandémie qui vous a empêché de faire des mapathons en présentiel, finalement ça a été une occasion, voyons le positif, de recruter de nouvelles personnes, de nouveaux bénévoles. Est-ce que c'est bien le cas?
Oui, tout à fait. En fait, la limite un peu de l'approche qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'en faisant en présentiel, on faisait ça dans les villes où on est les plus présents, donc plutôt en Rhône-Alpes ou à Paris. Et là, en fait, ça nous a permis d'ouvrir un vaste public ailleurs en France et aussi à l'étranger. Donc au niveau international, il y a plein de choses hein, d'équivalents de ce type, mais c'est vrai qu'en francophone, on est un petit peu les seuls. Donc ça nous a permis d'accueillir pas mal de monde. Et en fait, justement, là maintenant, ce qu'on aimerait, c'est aller plus loin dans cette articulation entre des gens qui, en fait, finalement, viennent nous voir, font un mapathon chez nous, mais en fait, ils sont basés dans un pays ou XY en Afrique ou en Asie, et en fait, ils auraient plein de choses à faire chez eux, mais c'est pas forcément évident de les accompagner pour, en fait, aller rencontrer, en gros, les acteurs de leur territoire, peut-être des associations sur des choses qui auraient besoin de cartes et qui pourraient venir aider directement. Donc ça fait partie un petit peu de la feuille de route stratégique qu'on s'est fixée pour les prochaines années. On va le faire avec toute modestie et dans la limite de nos capacités, évidemment, mais c'est vers ça qu'on aimerait aller, en fait, de vraiment aider ces contributeurs OSM ou cartographique en général, hein, il y a aussi plein d'autres outils locaux, à pouvoir venir en aide aux projets d'intérêt général de leur territoire.
Donc il y a des nouvelles prospectives qui s'ouvrent, quand il y a un problème, il y a une solution, on peut aller encore plus loin. J'imagine effectivement que pour les personnes qui participent à ces mapathons, il y a déjà une grande satisfaction de pouvoir contribuer à OpenStreetMap, mais une grande satisfaction aussi de pouvoir contribuer à des projets humanitaires. Je vois toujours sous votre rapport d'activité que vous avez cartographié au moins 50 sites de réfugiés. Donc ça fait toujours partie du projet Missing Maps, donc des sites en fait qu'on a du mal à voir et à rendre visibles. Donc le temps file très vite. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu souhaites rajouter par rapport à CartoNG, par rapport à Missing Maps?
Simplement repréciser aux gens donc effectivement qu'ils peuvent venir s'inscrire au Mapathon. Donc les inscriptions sont, on met de la com sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Donc c'est tous les lundis. C'est une excellente occasion de découvrir OpenStreetMap, CartoNG, et pourquoi pas de s'engager plus avant dans le bénévolat. Et s'il y a des gens que le sujet intéresse tout particulièrement, on organisera aussi l'an prochain, on le fait tous les deux ans, un plus gros événement qui s'appelle GONG à Chambéry. Ça sera à l'automne. Donc si les gens sont intéressés par la cartographie humaine, c'est le gros événement sur le sujet en Europe.
Merci, merci beaucoup Martin, et bonne continuation.
Merci à toi.
Nous allons maintenant faire une pause musicale. Nous allons écouter un morceau d'un groupe anglais qui s'appelle Vienna Ditto. Ils décrivent leur musique comme du drum machine gospel ou du voodoo sci-fi pour science-fiction blues. Donc vous aurez compris, il y a de la batterie électronique, des sonorités blues bien révisitées. Et j'ajoute que la guitare électrique joue un rôle important aussi dans leur musique et que la voix féminine est particulièrement envoûtante. Je vous laisse découvrir le morceau. Voici donc Liar Liar par Vienna Ditto sous licence libre CC BY 3.0. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.
D'écouter Liar, Liar par Vienna Ditto. À un moment dans le morceau, on entend une séquence de notes qui rappelle pas mal le thème des génériques de James Bond. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça m'a fait sourire qu'il y a un film de James Bond qui est sorti au cinéma tout récemment. Je précise que j'ai découvert ce morceau tout récemment. J'avais hâte de vous le proposer et donc mon choix n'a rien à voir avec la sortie du film. C'est vraiment le hasard. Vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm. Ce morceau est disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant au sujet suivant. Lors du premier sujet, nous avons parlé de cartographie, des données sous licence libre. Le sujet principal d'aujourd'hui traite aussi de ces thèmes, car il porte sur le système d'information géographique libre QGIS. Nous vous reproposons un échange qui a été diffusé lors de l'émission du 9 mars 2021. Je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le système d'information géographique libre QGIS avec nos invités Régis Aubourg et Vincent Picavet. La discussion va être animée par Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, auquel je passe la parole en espérant que les trois soient sur le pont téléphonique. C'est à vous.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jean-Christophe Becquet, le vice-président de l'April et je suis ravi d'animer cette émission avec Régis Aubourg, président de l'OSGEO-FR, et Vincent Picavet, gérant de Osmandia. Et je vais leur passer la parole tout de suite pour les inviter à se présenter, à nous en dire un petit peu plus sur leurs structures respectives. On commence par toi, Régis, si tu veux bien.
Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, Régis Aubourg, moi, je suis géomaticien, un métier qu'on a toujours beaucoup de mal à expliquer à l'extérieur. Je gère des données géographiques depuis assez longtemps, venant d'un métier de l'agronomie et de fil en aiguille en tombant dans le jeu de l'open source dans mes différents métiers. Je suis arrivé à contribuer au sein d'une grande famille qui s'appelle l'OSGEO, qui est une fondation mondiale qui rassemble tous les promoteurs du logiciel libre géomatique et open source évidemment. Et donc je suis actuellement président de l'association française qui promeut ses actions, dans laquelle le groupe QGIS, utilisateur français, est hébergé. Et on essaie de faire des actions de promotion et de soutien de ce projet et de financement.
Voilà. Et par ailleurs, actuellement, tu travailles dans une collectivité en tant que géomaticien, c'est ça ?
Voilà, j'ai un parcours où j'ai commencé par un établissement public de l'État dans lequel j'ai conduit des migrations de bases de données et de systèmes d'information géographique vers du libre pendant assez longtemps. J'ai passé 4 très belles années en société de service en logiciel libre que va vous présenter par la suite Vincent Picavet. Et là, je suis retourné à mes amours de proximité avec les utilisateurs et continuer ce beau projet.
Merci Régis. Vincent Picavet, donc tu es le gérant de Osmandia, une entreprise spécialisée dans la géomatique libre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
C'est ça. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, je dirige Osmandia depuis maintenant plus de 10 ans. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai commencé l'open source avec Debian Sync, donc ça rejoint l'hyperson, ça, c'est un peu vieux. Et puis, au fur et à mesure de mes différentes expériences, j'en suis arrivé à me spécialiser dans les systèmes d'information géographique, et plus spécialement autour de PostGIS initialement. Et j'ai créé Osmandia il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans, que je dirige toujours. Et Osmandia fait du... Enfin, petite histoire, le OS c'est open source, l'Inde c'est le pays, le territoire. Et on fait du système d'information géographique open source et aujourd'hui on se positionne en tant qu'éditeur QGIS et pure player open source. Donc on est vraiment dans le développement de cette solution-là et de toute la gamme de services autour de ce projet.
Ok, merci à tous les deux. Donc on a parlé de géomaticien et de QGIS. Et donc pour commencer, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que QGIS et à quoi sert ce logiciel, Régis ?
QGIS, c'est un logiciel qui contient GIS dans le nom, c'est un Geographic Information System. Et le Q, peut-être que je laisserai la parole à Vincent pour expliquer l'origine informatique, c'est plus son domaine. que moi. C'est un système qui est extrêmement transversal, qui permet d'observer le monde. C'est moi pour ça que je suis tombé en passion de ces outils-là venant du monde de l'agronomie, l'agriculture, parce que j'en avais besoin juste pour comprendre les territoires, comprendre les écoulements d'eau, comprendre comment fonctionne l'agriculture sur un territoire, interaction avec les îles. Et donc on manipule des données pour spatialiser des forêts, des routes, etc., les caractériser. Donc en fait, c'est des bases de données. On les représente dans l'espace et sur un écran en les reprojetant, en prenant en compte toutes les questions compliquées de géodésie, de rotondité de la Terre. Et on les analyse et puis ça peut finir par donc de la cartographie orientée papier, de la cartographie orientée numérique sur des serveurs web pour faire des cartes interactives. Et QGIS, au milieu de tout ça, c'est un peu le couteau suisse qui vraiment s'impose, qui permet de faire du travail bureautique essentiellement au départ, et qui maintenant s'étend vers le web, et qui sait lire la majorité des formats de données et de bases de données qu'on fait manipuler, donc des données vectorielles, des points de ligne, des polygones, des images, ça peut être des nuages de points, etc. Et donc on retrouve des usages dans tous les domaines de ce type d'outils. Donc moi j'ai parlé d'agriculture, environnement, on peut parler d'urbanisme, de cadastre, de réseau d'eau. Il y en a qui s'amusent à cartographier Mars avec ce type d'outils, ou le scalp des cheveux chez certains fabricants de shampoing, si j'ai tout compris.
Ah oui, donc en fait, QGIS, ça va beaucoup plus loin que juste dessiner des cartes. Vincent, tu souhaites ajouter quelque chose?
Oui, c'est vrai que c'est un usage qui est en général très majoritairement professionnel aujourd'hui. On s'adresse vraiment à des gens qui utilisent cet outil dans leur métier et le métier peut être très varié. Comme disait Régis, les deux anecdotes d'utilisation vraiment les plus atypiques que j'ai vues de QGIS, c'est donc une grande entreprise que je ne citerai pas qui réalisait des cartographies de la peau humaine pour analyser l'effet des cosmétiques. C'est intéressant, on s'y attendait pas. Et puis j'ai également rencontré complètement par hasard un utilisateur qui faisait de la cartographie de la pensée de Deleuze sur QGIS. Et donc là on est complètement dans des choses très très conceptuelles mais qu'on peut rattacher quelque part au territoire. Donc ce qu'on voit c'est qu'on est vraiment sur un outil qui a un spectre d'utilisation qui est très très large et pour des domaines super variés. Et c'est ce qui fait aussi beaucoup l'intérêt des systèmes d'information géographique et de nos métiers.
Alors, une question d'un auditeur, je la pose maintenant parce que je pense que c'est vraiment lié à ce que vous venez de raconter. Est-ce que QGIS a un lien avec OpenStreetMap? Révis?
QGIS est un client OpenStreetMap. À la différence de beaucoup d'autres clients, on peut télécharger de la donnée OpenStreetMap et l'analyser en local. C'est pas une appli web, hein, donc une fois que vous l'avez chez vous, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc il y a des extensions QGIS qui sont très spécialisées à venir consommer les données OpenStreetMap. Il n'y a en revanche pas encore un outil pour éditer OpenStreetMap, les données OpenStreetMap, tout simplement parce que les modèles de données qu'on utilise en système d'information géographique sont assez différents des primitifs qu'on trouve dans les bases OpenStreetMap. En système d'information géographique, on hérite du monde des bases de données, donc avec des tables, des champs, des enregistrements, et puis des objets géographiques qui sont une caractéristique comme une autre pour présenter ces objets-là sur une carte. OpenStreetMap, c'est des primitives d'une structure un peu différente, donc le passage de l'un à l'autre n'est pas si simple.
Merci. Et donc, j'ai envie de vous demander maintenant, on va faire un petit peu d'histoire. Vincent, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment a démarré le projet QGIS et du coup peut-être nous expliquer le Q de QGIS?
Ouais, alors le projet QGIS, il démarre dans les années 2000 à peu près. C'est Gary Sherman qui est un résident d'Alaska, donc perdu tout un fin fond des montagnes, qui a l'initiative de développer un outil qui va lui permettre de visualiser les données qui sont intégrées dans PostgreSQL PostGIS. PostgreSQL PostGIS en tout cas, c'est l'extension qui permet de faire de traiter de la donnée cartographique à l'intérieur de la base de données que vous connaissez certainement qui est PostgreSQL. Et on pouvait stocker ces données, on pouvait les analyser dans la base de données, mais on ne pouvait pas vraiment les visualiser. Donc Gary Sherman il s'est dit, je vais développer un visualisateur de ces données PostGIS qui pourra se connecter sur la base et m'afficher la cartographie de ce qu'il y a à l'intérieur. Et il l'a fait sur une base en utilisant Qt, qui est le framework C++ qui permet de faire de l'interfaçage graphique. Et donc, le Q de QGIS, ça vient de Qt. Et pour la petite histoire, il y a dans les classes C++, alors Gary Sherman ne contribue plus vraiment maintenant au projet, mais toutes les classes C++ de QGIS commencent par QGS. Et en général, on pense que ça veut dire QGIS et qu'il manque le I. Mais en fait, ça veut dire Qt Gary Sherman. C'était ses initiales qui traînent encore dans tout le code. Donc, il y a l'ombre de Gary Sherman qui plane là-dessus qui est toujours présente. Et donc, le Q de QGIS vient de Qt. Donc, c'est développé en C++. C'est un outil qui est multiplateforme. Là où, initialement, quand les premières versions sont sorties, tous les logiciels SIG open source étaient plutôt orientés Java. Il y avait OpenJump, il y avait GVSync qui étaient des choses assez lourdes avec des interfaces un peu à l'ancienne. Au fur et à mesure, QGIS a évolué pour avoir de nouvelles fonctionnalités, pour avoir des nouvelles capacités de visualisation, de traitement de données, et au fur et à mesure a commencé à grossir. Au départ, on a eu une première vague de contributeurs qui étaient plutôt bénévoles. On va retrouver des gens comme Tim Sutton, Paolo Cavaini, Sandro Santi, qui sont des gens assez connus dans la communauté QGIS maintenant. Et puis, donc ce projet qui est dans les années 2006 à peu près, était encore un peu balbutiant, pas trop de fonctionnalités, a vu au fur et à mesure son écosystème grandir, a vu aussi un marché de services associés qui est arrivé avec des sociétés qui ont commencé à apparaître, donc SourcePool, OpenGIS, Auslandia, nous c'est 2009, Camp2Camp, Tartosa, Lutra Consulting, il y a un certain nombre de boîtes dans le monde qui sont montées, qui ont commencé à proposer du service autour de QGIS, et tout ça a fait grossir l'écosystème de façon assez forte. Et on a vu des nouveaux contributeurs arriver au fur et à mesure, par l'intermédiaire du Google Summer of Code, par l'intermédiaire d'autres initiatives. Et puis, il y a eu un tournant un peu dans le développement de QGIS qui a été le fait qu'on puisse développer des plugins sur QGIS. Donc, QGIS, c'est aussi une plateforme de développement. On peut l'étendre avec des plugins en Python. Et ça a fait exploser le nombre d'utilisateurs et de contributeurs de l'écosystème, pas forcément directement de la solution QGIS, mais de l'écosystème, en fournissant des solutions pour des outils pour régler tout un nombre de problèmes très spécifiques, très génériques parfois, mais avec une liberté qui était très forte dans la capacité à prendre cette base informatique pour en faire ce qu'on voulait. Et donc, au fur et à mesure, ça a donné un projet qui a gagné une dynamique très forte et qui est aujourd'hui en accélération encore avec une augmentation du nombre d'utilisateurs, mais aussi du nombre de développeurs et du nombre des prestations qui sont autour aussi, tout l'écosystème économique qui s'y trouve.
Merci Vincent. Alors juste pour préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec le domaine du développement de logiciels, un framework, en fait, c'est un ensemble de composants logiciels sur lesquels on s'appuie pour développer, et ça permet en fait de bénéficier d'un certain nombre de fonctions génériques pour ne pas à chaque fois réinventer la roue, c'est-à-dire que plusieurs logiciels partagent par exemple la fonctionnalité ouvrir une boîte de dialogue pour accéder à l'arborescence des fichiers sur le disque dur, eh bien, le framework va offrir cette fonctionnalité. Ça va éviter aux développeurs de devoir tout réécrire à chaque fois. Et donc, le framework Qt, Qt en français, c'est un des grands frameworks libres sur lequel on peut s'appuyer pour développer des logiciels. On parle d'un logiciel qui a aujourd'hui une vingtaine d'années. Tu as dit que effectivement ce logiciel était aujourd'hui très très dynamique avec un grand nombre de plugins, d'extensions qui viennent compléter les fonctionnalités du logiciel. Et aujourd'hui QGIS, c'est un peu plus qu'un logiciel. C'est un logiciel, mais c'est aussi tout un écosystème de développeurs, d'utilisateurs. Régis ?
Oui, en effet, moi je reviens un peu sur ce qu'a dit Vincent, la phase de transition. Moi, j'ai débarqué dans le projet QGIS à cette époque-là en tant que acheteur public qui devait faire évoluer un système d'information géographique pour s'appuyer sur des bases de données solides. Et on avait choisi PostgreSQL à cette époque-là. Et QGIS était encore très immature. Hein. C'était un outil qu'on utilisait sans le donner aux utilisateurs. Et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, on va essayer de voir si on peut financer des petites évolutions pour que ça devienne un outil dans un coin qui nous permet de facilement visualiser les données. Et on s'est rendu compte que avec cette communauté de développement extrêmement accueillante, dynamique et réactive, on a pu, en l'espace de moins d'un an, en quelques financements, combler les manques fonctionnels qu'on avait par rapport aux outils en place, aux outils propriétaires en place. Et en fait, cette dynamique s'est accélérée d'elle-même parce que chaque euro financé qu'on injectait, on voyait que ça déclenchait des financements à l'autre bout du monde sur des thématiques similaires. On est rentré dans une boucle vertueuse extrêmement vite. Et c'est cet aspect-là, plus que l'aspect informatique, moi, qui m'a fait tomber amoureux du projet, hein, à la fois l'accueil et l'ouverture de cette communauté et l'efficience de l'argent qu'on injectait dedans. On recevait beaucoup plus que ce qu'on mettait dedans. Donc sur la communauté QGIS, effectivement, il y a une explosion du nombre d'utilisateurs dont on n'a absolument aucune idée du chiffre, car on ne collecte pas de statistiques et on ne veut pas le faire. Et du coup, ça aboutit souvent à ces indicateurs. On essaye d'estimer combien de personnes utilisent QGIS avec des nombres de visites de pages, de téléchargements, mais on est rendu sur quelques millions, mais on sous-estime très largement le nombre d'utilisateurs réels. Hein. En entreprise, il y a un téléchargement qui va déployer 2000 postes. Et on parlait tout à l'heure de la gendarmerie. La gendarmerie a déployé QGIS sur sa distribution Gemubuntu et sur ses postes Windows également. Et ça dessert potentiellement 9000 postes. Pas 9000 utilisateurs, mais voilà. Une grosse vitalité de l'écosystème.
Oui, Vincent.
Pour illustrer la dynamique, petite anecdote aussi, qui était, je crois que c'était en 2006, moi j'étais à l'OSGOFR à cette époque-là, à la place un peu de Régis, et le ministère de l'Environnement vient nous voir en disant, bah, ça nous intéresse, QGIS, on voudrait bien s'y mettre, c'est potentiellement une solution pour le ministère, on cherche des informations, puis on voudrait faire une étude dessus, on vous tient au courant. Ils reviennent 6 mois après et ils nous disent bon bah voilà, on a étudié le logiciel et c'est super, mais il y a ça et ça qui marche pas. Donc ils nous avaient fait une belle liste, ils avaient interrogé tous leurs utilisateurs, ils avaient fait des tests, ils avaient fait une grosse liste, ils avaient dit bah ça manque et aujourd'hui ça nous empêche de passer le logiciel comme étant quelque chose qui est recommandé. Et en fait, le temps qu'ils fassent le test, et ben tout ce qu'ils avaient donné, la liste était complètement obsolète et tout ce qu'ils avaient donné comme problématique qu'ils avaient rencontré était déjà corrigé. Donc du coup, ça donne une idée de la dynamique du projet et après, bon, on va en reparler, ça donne aussi des indications sur comment on fait pour s'intégrer correctement dans un projet open source avec une nécessité d'interaction forte entre les utilisateurs, les développeurs et le projet et son écosystème en tant que tel.
Alors, il y a Nordine sur le blog de l'émission, sur le chat de l'émission qui nous dit, je confirme, au ministère de l'Environnement, on a laissé tomber MapInfo, donc concurrent privateur de QGIS, à la faveur de QGIS, qui parle de 90 000 postes. Et du coup, j'ai envie de vous demander maintenant, est-ce que vous avez des exemples de déploiement de QGIS à grande échelle dans des structures, que ce soit publiques ou privées? Régis?
Oui, on n'en manque pas. Alors, il y a un certain nombre d'exemples que j'ai vécu moi-même, par exemple la gendarmerie. Hein, j'ai suivi ce projet de déploiement et surtout de configuration de QGIS pour qu'il réponde facilement aux utilisateurs. Hein. Déployer, c'est une chose. Mais comme tout outil un peu complexe, un peu professionnel, il y a des boutons partout et on ne sait pas forcément quoi en faire. Donc l'essentiel de l'enjeu, c'est bien l'adapter pour que ça s'utilise simplement. J'ai donc moi-même participé au déploiement au ministère de l'Environnement. J'étais dans un établissement associé et j'ai cofinancé avec le ministère de l'Environnement à cette époque-là, enfin avec les deniers de mon employeur. Donc ça représente plus que 90 000 personnes puisqu'il y a tous les établissements associés. Il y en a une bonne partie qui ont basculé aussi. On a vu des très grands comptes du domaine privé arriver, Vincent, tu me diras, il y a 5 ans peut-être, a commencé à arriver et puis prendre vraiment leur essor depuis 3 ans. Donc il y en a qui en ont parlé publiquement, comme Orange par exemple, hein, qui a refondu toute son infrastructure géomatique sur des briques libres. On a d'autres dont je ne sais pas trop parler. On a surtout des exemples en Suisse où il y a un mouvement massif et on va dire qu'une grande majorité des financements qui font bouger QI viennent de Suisse, où on a énormément de cantons, de communes, de grandes structures publiques et privées qui ont basculé. Et puis on a des opérateurs, parfois qu'on ne soupçonne pas, qu'on voit arriver simplement parce qu'ils se mettent à publier des plugins, des extensions, et du coup on se dit tiens, ils utilisent QGIS. Et c'est notamment le cas du fédéral américain, côté armée, côté NSA. Voilà, donc il y a des choses qu'on apprend nous-mêmes de l'extérieur, puisque rien ne leur oblige à dire ce qu'ils font. Ils prennent la licence, puis ils en font ce qu'ils veulent. Et on pressent qu'en fait le déploiement est bien plus grand que ce qu'on connaît. On a des exemples un peu au hasard des rencontres et des indices qu'on trouve sur le net.
Et si je peux compléter, ce qui est intéressant avec QGIS, c'est ça, c'est vraiment lié à son caractère libre, c'est que non seulement on le retrouve dans des très grandes structures déployées à grande échelle comme la gendarmerie ou le ministère de l'Environnement, mais on le retrouve aussi dans des toutes petites structures. Moi, je travaille plutôt avec des petites collectivités en zone rurale, mais dans une mairie dans laquelle il n'y a pas de géomaticien, il n'y a pas de service dédié au système d'information géographique, on peut se trouver à avoir un QGIS installé pour visualiser le cadastre, pour gérer un plan pour des travaux ou pour des demandes d'urbanisme. Voilà, c'est aussi un logiciel qui se prête très bien à une très grande diversité d'utilisation. Je vous propose, avant de parler un petit peu plus en détail de la communauté QGIS et du rôle joué par l'OSGOFR comment ça fonctionne, comment ça s'organise tout ça, de prendre une petite pause musicale et je laisse la parole à Fred pour vous présenter le choix de la programmation.
Mais écoute, merci Jean-Christophe. Nous allons écouter Follow Me par Vendredi. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles.
Cause Commune. Check, give it a microphone, I make them make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.
Nous venons d'écouter Follow Me par Vendredi, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous parlons au cours de cette émission du système d'information géographique libre QGIS. Je vais donc repasser la parole à nos invités Régis Aubourg, Vincent Picavet et Jean-Christophe Becquet. Et je rappelle que si vous souhaitez participer à notre conversation, c'est sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, libre à vous. Jean-Christophe, c'est à toi.
Merci Fred. Et donc, pour faire écho à la discussion effectivement qui se déroule sur le chat, un auditeur posait la question de la licence utilisée par QGIS et Vincent répond que QGIS est sous licence GPL V2 ainsi que ses plugins. Voilà, et je propose maintenant qu'on poursuive notre conversation autour de QGIS en parlant de la structure de la communauté et peut-être passer la parole à Régis pour nous expliquer un petit peu le rôle joué par l'OSGOSR et comment fonctionne la communauté QGIS.
Oui, alors le rôle de l'OSGOFR est relativement modeste. Hein. On fait que relayer des actions de l'OSGO international qui fédère tous les outils géomatiques. Il faut bien voir que QGIS s'appuie sur des briques communes à beaucoup d'autres logiciels. On va utiliser des librairies d'accès aux données, de conversion des formats de données, des librairies de reprojection. On va s'appuyer sur des bases de données comme Postgres pour tirer la pleine puissance de QGIS. Et puis, il y a QGIS par-dessus qui s'appuie sur les épaules des géants, qui s'appuie sur les épaules de Qt également. Là-dedans, la structuration de l'OSGO va appuyer tous ces projets. QGIS, en soi, est devenu tellement dynamique qu'il a créé sa propre structure il y a 2 ans et demi, qui s'appelle QGIS.org, qui est une association qui s'est hébergée sur du droit suisse, parce que c'était l'endroit où c'était moins compliqué pour faire de l'administratif, qui jusqu'à présent n'existait pas. Et on avait un projet qui est passé de l'informel au semi-formel, où pour l'instant il y a un petit bureau de 6 personnes dans un comité de pilotage, qu'on appelle le steering committee. Et il y a des budgets relativement faibles en fait sur QGIS parce que l'intégralité quasiment des moyens et des ressources passe directement entre des utilisateurs et des développeurs qui veulent faire évoluer le logiciel. Hein. C'est un peu le modèle économique qu'a Auslandia. Et donc autour de pour fluidifier tout ça, pour maintenir les sites web, maintenir les serveurs, faire toutes les tâches qui sont très difficiles à financer. On a l'association QGIS.org qui a un budget qui est en assez forte croissance, mais qui dépend essentiellement de dons, de sponsoring, maintenant d'adhésion de collectivités, d'entreprises, etc., qui ont la capacité de le faire. Et donc on a un budget d'environ 220 000 euros qui monte de 15-20% par an, qui reste minime, hein, c'est d'une frugalité et d'une efficience terrible. Et là-dedans, l'OSGOFR et le groupe QGIS francophone essayent de valoriser les actions de QGIS.org, donc relayer au niveau francophone tout ce qui se discute sur les listes internationales, relayer les initiatives de choix d'allocation de budget, donc on a une structure démocratique où quand il y a des fonds à allouer pour des innovations, pour consolider la documentation, pour des tâches de fond, de, par exemple faire des installeurs sur Mac, eh ben, il y a des votes démocratiques et les groupes utilisateurs de chaque pays ont des droits de vote. Et donc l'OSGOFR relaye tout ça, essaye de prendre la tâche des utilisateurs et de créer un réseau d'utilisateurs et d'entraide également autour de tout ça. En France, on a déjà des réseaux d'entraide qui existent, donc on n'est pas trop positionné là-dessus, on est plus positionné sur l'organisation d'événements, comme les journées QGIS utilisateurs, qui ont lieu tous les ans depuis 8 ans à Montpellier jusqu'à présent, cette année en distant, et on va probablement partir sur une logique de Tour de France et de se rapprocher des régions, donc plutôt appuyé par Rhône-Alpes Auvergne ces temps-ci, mais on va tourner, voilà. Et que dire de plus, j'étais encore ce midi en réunion visio avec le groupe QGIS-FR, il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de donner la main, envie de faire des groupes locaux. Et voilà, globalement comment ça fonctionne.
Toujours très mutualisation, dynamisme, ça fait rêver vos témoignages. Peut-être avant de
passer la parole à Vincent pour parler des aspects au-delà du logiciel dans la communauté QGIS, une réponse rapide à une question qui a été posée par un auditeur. Quelle différence entre QGIS et JOSM? Donc JOSM est un des principaux éditeurs pour contribuer à la base de données libre OpenStreetMap. C'est vraiment un éditeur dédié à la contribution OpenStreetMap qui fonctionne aussi avec un système de plugins qui est aussi un logiciel libre, mais voilà, qui est vraiment spécialisé sur la contribution à OpenStreetMap. QGIS, c'est un logiciel dont les fonctionnalités sont beaucoup plus larges et étendues. On peut dans QGIS consommer des données ou des fonds cartographiques OpenStreetMap, entre autres, mais ça fait plein d'autres choses encore, comme on l'a expliqué un petit peu en début d'émission. Vincent, le libre, ce n'est pas que du logiciel, et c'est un aspect important et parfois complexe dans la communauté QGIS. Est-ce que tu ne peux nous en dire deux mots?
Oui, effectivement, c'est toujours un sujet dans le logiciel libre, qui est au-delà de QGIS en proprement parler, hein. On a souvent des communautés qui sont centrées sur les développeurs, parce que c'est souvent qui sont à l'origine des projets. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez significatif, c'est qu'il y a des rendez-vous de la communauté des développeurs QGIS chaque année, hors période Covid. Et historiquement, c'était les développeurs speeding, donc c'était vraiment le rendez-vous des développeurs. On a changé le nom pour faire des community meetings, pour être beaucoup plus inclusif, parce que un logiciel tel que QGIS, c'est très loin d'être uniquement du code, et il y a des aspects qui sont très importants également, mais qui sont souvent un peu de façon très ingrate, invisibilisés. On parle évidemment de la documentation. La documentation de QGIS, elle est assez complète, il y a beaucoup de choses dedans. La contribution à la documentation, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que ça évolue en permanence, il faut suivre les évolutions techniques des développeurs justement. Le système technique de documentation n'est pas forcément super évident parce que non seulement il faut documenter, mais il faut aussi ensuite traduire également la documentation. Donc c'est des choses qui demandent une certaine technicité, ça passe par du Markdown, du Sphinx, du Git, des pull requests, etc. Des tests unitaires de documentation, il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires. Le ticket d'entrée pour documenter QGIS est assez élevé, donc c'est difficile de trouver des rédacteurs. Il faut être évidemment à l'aise en anglais et il faut connaître le logiciel assez bien. Donc la documentation, c'est un gros aspect de QGIS, c'est quelque chose qui est difficile aussi parce que on a du mal à trouver des gens qui se dédient à ça. C'est moins reconnu que le travail de développeur, on essaie de faire des efforts, mais force est de constater que c'est plus difficile pour les documentaires que pour les développeurs de prendre leur place. Mais la documentation, c'est pas le seul aspect au-delà du code qui est important pour un projet tel que QGIS. Il y a un aspect infrastructure qui est important aussi parce que qu'est-ce qui se passe quand vous développez une nouvelle fonctionnalité, vous allez rajouter votre code dans le logiciel, mais à partir de ce moment-là, eh bien, on va reconstruire le logiciel, on va faire tourner tous les tests unitaires de façon automatique, on va construire des paquets de distribution d'installeurs, et tout ça, c'est des choses qui demandent énormément de temps, qui sont difficiles également, qui sont peu visibles, et surtout qui ne sont pas financées, parce que financer de la fonctionnalité, c'est assez facile. Les clients vont venir en disant, voilà, j'aimerais bien que QGIS fasse ce bouton-là en bleu plutôt qu'en vert. En général, c'est plus complexe, mais ça peut ressembler à ça. Et puis, on va dire, ok, je vous développe ça, ça va coûter tant, très bien, je voulais développer, vous avez votre changement de couleur, vous êtes content, tout le monde est content. Par contre, leur dire, vous allez payer quelques milliers d'euros pour que les serveurs tournent, pour pouvoir faire un build automatique à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va committer, déjà, ils comprennent plus rien, ils voient pas l'intérêt immédiat pour eux. Ça va certes augmenter la qualité du logiciel, mais il n'y a pas une boucle de rétroaction qui est suffisamment efficace et visible pour que ça draine du financement.
Donc, est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est un build automatique quand quelqu'un a committé?
Alors, donc, quand on prend le code source, on va rajouter des lignes au code source. Et puis, une fois qu'on a rajouté ces lignes open source pour faire une nouvelle fonctionnalité, eh bien, il faut construire le logiciel. On prend le code source et puis on va faire un, ce qu'on appelle un binaire, un installeur. Si on prend les gens qui ont l'habitude d'être sous Windows, bah, c'est quand on clique sur suivant sans lire ce qui est écrit. Bon, bah, ça, c'est l'installeur. On a à peu près les mêmes techniques sous les systèmes libres tels que Linux ou d'autres. Et puis, eh bien ça, ce build, cet installeur-là, il faut qu'il soit construit. Et aujourd'hui, la construction, elle est automatique à chaque fois qu'on va prendre un nouveau code source, à chaque fois que quelqu'un va faire une modification, eh bien on va construire une nouvelle version de ce logiciel pour pouvoir le mettre à disposition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le packaging, c'est faire la boîte autour du logiciel avec l'installeur qui est à l'intérieur. Et ça, c'est des tâches qui sont assez difficiles à faire, qui demandent une grosse technicité, qui sont pas forcément très rigolotes et qu'on a souvent du mal à financer aussi.
Alors, à nouveau, hein, pour apporter un témoignage de l'extérieur et par un utilisateur non spécialiste de la géomatique, sur les deux aspects que tu viens de développer, la documentation de QGIS, elle est effectivement parfaitement traduite en français et elle est d'une qualité remarquable, quoi, y compris pour la mettre entre les mains d'utilisateurs dont ce n'est pas le métier premier d'être géomaticien. Et sur le côté distribution du logiciel, donc QGIS bien sûr est multiplateforme, hein, tu l'as évoqué, il fonctionne sur la plupart des systèmes d'exploitation les plus courants, et il est livré sous une forme facile à installer. Sous Windows, ça va être un exécutable pour installer le logiciel. Dans les distributions Linux, ça va être des paquets intégrés à la distribution. Voilà, c'est effectivement un travail invisible, n'empêche que il est réalisé de manière très qualitative et très accessible. Donc tu l'as dit, hein, ce travail de documentation, d'infrastructure, de packaging du logiciel, ça se fait pas sans difficulté. Dans la communauté, ça se passe bien. On arrive quand même à recruter des gens pour faire ce travail. C'est compliqué.
Alors. Oui et non, c'est pas toujours facile. Alors il faut voir déjà que QGIS n'est pas tout seul, il va se baser sur un grand nombre de bibliothèques logicielles qui vont effectuer des tâches sous-jacentes, par exemple Proge qui va faire tout ce qui est gestion des systèmes de projection, GEDAL qui va faire toute la gestion des formats de fichiers, des formats d'accès à la donnée, et ça c'est des communautés qui sont très liées à QGIS, mais qui sont indépendantes aussi. Donc, on va au-delà du code de QGIS, il y a aussi le code de tout l'écosystème OSGEO derrière, qui est intéressant et qui est important pour QGIS. Ensuite, pour répondre à ta question sur les difficultés rencontrées, oui, clairement, il y en a parce que on est passé d'un logiciel qui était un logiciel de hobbyiste utilisé dans un coin avec très peu de fonctionnalités à quelque chose qui est utilisé par des millions de personnes avec énormément de fonctionnalités et une dimension qui est largement plus grande que ce qu'elle avait avant. Et donc, avec l'évolution du logiciel, il faut une évolution du fonctionnement de la communauté. Régis a parlé un peu de l'organisation de la communauté, la création de QGIS.org. C'est vrai aussi dans le contenu du logiciel, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de plus de qualité, donc de plus de process techniques dans l'évolution du logiciel. On va avoir besoin de plus d'automatisation, je parlais du packaging, de l'infrastructure. Et ça, parfois, ça crée des oppositions dans la communauté parce que ça complexifie le travail du développeur, ça ralentit aussi l'évolution du logiciel, par exemple. Et tout ça, bah, y a des gens que ça dérange parce que bah, ils n'ont pas envie d'évoluer, ils étaient bien dans leur situation confortable de développeur dans leur cadre, et ils n'ont pas forcément envie que ça évolue. évolue, mais heureusement et malheureusement, je sais pas, de toute façon, c'est un état de fait, le logiciel et la communauté évoluent, et l'écosystème évolue, et donc il faut s'adapter. Donc ça peut provoquer parfois des tensions dans la communauté, avec des visions qui sont différentes, de gens qui veulent aller plus vite, de gens qui veulent aller moins vite, et c'est pas forcément facile, donc là, ça demande de la discussion, des rencontres de préférence en live pour pouvoir échanger autour d'un verre, et ça, c'est quelque chose qui est important. On a la plus grande difficulté aujourd'hui du projet aussi, c'est la résilience, c'est-à-dire qu'il faut que le projet ne dépende pas d'une personne ou de quelques personnes, et on voit assez régulièrement dans le logiciel libre en général et dans l'écosystème QGIS en particulier, ce qu'on appelle la fatigue du mainteneur, qui est des gens sur qui la responsabilité du projet finit par reposer et qui ont, au bout d'un moment, font un burn-out parce que ils ont trop de responsabilités, trop de pression, trop de travail. Et ce qu'on appelle le buzz factor, si votre projet il dépend d'une personne ou de deux personnes, c'est un danger de résilience. Et ça, il faut le travailler en permanence et il faut le travailler dans sa dimension humaine, dans l'aspect des rapports sociaux, dans l'aspect de la considération de la personne et du travail qui est réalisé. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire dans une communauté et d'autant plus dans des communautés qui sont des communautés techniques de développeurs.
Alors, ce que tu dis, en tout cas, ça rejoint vraiment les témoignages que j'avais eus dans la première émission que j'avais animée sur le logiciel libre GeoTrek, un logiciel libre pour la gestion des itinéraires de randonnée avec les parcs des écrins et des Cévennes, dans lesquels effectivement les intervenants nous expliquaient l'importance de ce contact humain au sein de leur communauté. La difficulté à financer ce qui ne se voit pas, comme par exemple les changements de version dans le framework sur lequel on s'appuie pour développer, et la solitude de l'animateur de la communauté. Donc voilà, c'est des choses que je retrouve. Régis, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, j'insiste là-dessus. On est passé en moins de 10 ans d'un logiciel où les gens venaient coder pour se faire plaisir à un logiciel qui s'est professionnalisé avec énormément de demandes. La plupart des bénévoles ont fini par se mettre à travailler à leur compte là-dessus, par plaisir, mais aussi parce que la demande était là. Et puis ça ne cesse d'augmenter et maintenant on voit des nouvelles catégories d'acteurs arriver, alors même qu'on a encore des bénévoles. Hein, je rends par exemple hommage à Risto Santana qui est français, qui fait un travail monumental de coordination et de documentation en bénévole. Et à côté, on a des très grands acteurs comme SAP qui arrivent et qui veulent influencer sur l'avenir de QGIS, comme des très gros dont on ne peut pas trop dire le nom et dont on sait qu'ils tirent énormément parti de ces outils-là, ils les déploient chez eux. Et notre enjeu actuellement, et c'est pas vrai que pour QGIS, c'est vrai pour toutes les briques sous-jacentes, c'est de tirer une partie des revenus qui tirent de ce logiciel-là pour les faire vivre. Donc, et la pression sur les développeurs, elle est aussi liée au niveau de pression et d'exigence qu'ont ces très grands acteurs sur les développeurs. Et les gens qui sont dans ces entreprises-là, par exemple IBM dernièrement, n'ont pas confiance du modèle économique open source. C'est impossible de discuter avec la hiérarchie. Donc on a des grandes structures qui ont une prise de conscience par le haut, comme Orange, de la stratégie open source, et puis il y en a d'autres qui arrivent juste un peu opportunistes, et il y a un enjeu à éviter que ça mette trop de pression sur tout le monde, mais quand même à accepter cette croissance-là pour faire que le projet soit plus résilient.
Oui, j'ai envie de dire que l'opportunisme n'est pas forcément gênant quand il se cantonne à utiliser le logiciel sans contribuer, mais lorsque on cherche à influencer effectivement l'évolution du logiciel ou à exiger certaines orientations ou l'ajout de certaines fonctionnalités, si on ne participe pas à l'effort, effectivement, ça pose rapidement des problèmes. Alors, tu as parlé de gros acteurs privés comme Orange ou IBM. Il y a aussi un rôle important des acteurs publics. Est-ce que l'un de vous souhaite aborder la question de QGIS et les marchés publics?
Avec plaisir. Allez, c'est toujours un plaisir, les marchés publics. Ouais, c'est un peu... c'est un peu un des sujets par lesquels j'aborde moi plus le projet QGIS. Je suis ni développeur, ni très impliqué dans la documentation et les traductions. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un écosystème économique viable, y compris pour les acteurs publics. Et ça passe forcément par les marchés publics. Il faut bien comprendre qu'on n'intervient pas de la même manière sur un logiciel libre qu'un logiciel privateur. On n'achète pas une boîte toute prête, on intervient et on prend la main sur sa destinée quand on vient intervenir sur un logiciel libre, sur QGIS par exemple. Et du coup, les marchés qu'il faut qu'on ait, il faut qu'ils s'adaptent à la communauté qu'il fait vivre, hein, parce qu'on ne va pas lui imposer des choses qu'elle ne veut pas. Donc il faut être capable, dans ces marchés-là, de prévoir de quoi discuter en amont, de faire en sorte qu'on fait du transversal. Il faut prévoir de quoi assumer les tâches difficilement finançables dont parlait Vincent. Moi, j'ai toujours passé mes marchés avec de la documentation incluse et au moins la traduction française associée, des tests unitaires. J'avoue, à l'époque, je comprenais pas les notions de packaging, de faire les installeurs sous Windows, sous Mac, etc. Mais maintenant, avec la maturité et le recul, j'inclurai ces items-là parce que ce sont des tâches cachées qu'il faut financer. Et en fait, on a des solutions dans les marchés publics. Souvent, on a une peur d'attaquer l'achat de services en mode traditionnel sur des objets qu'on comprend mal. Mais on a tous les outils qu'il faut avec des marchés cadres qui permettent de passer des petits marchés rapides, itératifs, agiles, avec pas trop de lourdeur administrative. Hein. J'avais par exemple fait des accords cadres inspirés d'ailleurs de ceux de l'Institut Géographique National qui a un grand savoir-faire dans l'intervention sur le logiciel libre. Depuis des années, et on avait trouvé une façon de faire intervenir chacun des spécialistes du domaine dans son cœur de métier. C'est aussi ça, derrière, on n'a pas une grosse société, on a une galaxie de gens avec leur domaine spécialisé. Donc si on veut intervenir sur les librairies GEDAL et proches, on a la chance en France d'avoir le lead développeur qui est d'une efficacité extrême, Evan Rouault. Si on veut faire du QGIS qui est tellement large, de la 3D, on va pas aller chercher les mêmes personnes que si on veut faire du QGIS pour faire des applications métiers. Et puis on va essayer de s'associer pas que à du service d'achat, on va essayer de mettre aussi du support, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait il faut quelques années pour rentrer dans la culture d'un projet libre, comprendre ses codes, suivre les discussions, savoir à quel moment aller proposer quelque chose. Hein. Parfois on est trop en avance, on a raison trop tôt, mais ça convient à personne. Il faut apprendre à prendre ce temps de ce rythme. Là, les rencontres développeurs sont absolument importantes et à mon sens, faire en sorte que si on est un financeur de QGIS, il faut pouvoir y aller et laisser la chance à quelques participants d'y aller et venir faire diffuser cette culture au sein des services publics ou collectivités.
En tout cas, du coup, j'ai l'impression que ce que tu nous expliques, c'est que l'outil juridique pour faire des marchés qui fonctionnent avec le logiciel libre, il existe. Le problème, c'est de maîtriser de manière fine ces outils, d'adapter la bonne méthode et de connaître de l'intérieur le fonctionnement des communautés. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, mon point de vue, du coup, de prestataire en éditeur logiciel libre là-dessus, c'est qu'effectivement, on a les outils juridiques. Par contre, ils sont rarement utilisés. On se retrouve souvent, même si les équipes techniques, le besoin fonctionnel des équipes métiers ont bien exprimé leurs besoins, sont bien conscientes du logiciel, ont bien la compréhension de l'écosystème, des besoins, etc. Parfois, et la plupart du temps, ça coince au niveau des achats et des services des marchés qui vont, eux, faire des marchés qui sont tout ce qu'il y a de plus classique, comme s'ils achetaient du logiciel privateur. Et dans ce cas-là, nous, on s'y retrouve pas parce qu'on va se retrouver dans une situation où ça va être basé sur le prix majoritairement. Et si on commence à faire la course au prix, nous, en tant que société de service en logiciel libre, on peut pas se permettre de... On va pouvoir faire le développement qui est demandé, mais par contre, on ne pourra jamais financer la documentation, on pourra jamais financer l'infrastructure et on pourra jamais faire avancer le projet avec une qualité suffisante. Donc, on va rajouter des fonctionnalités, on va augmenter de la dette technique. Et ça, à terme, c'est pas bon pour le client qui a commandé, pour l'organisme public, et c'est pas bon pour nous parce que c'est pas soutenable et c'est pas bon pour le projet QGIS non plus. Donc il faut effectivement continuer à convaincre notamment les services de marché que ils ont les outils et qu'il faut qu'ils les utilisent pour aller dans le sens du projet. Alors nous, on essaie de faire des choses du type vente de la maintenance informatique, qui est quelque chose qui est compris des marchés et qui rentre pas dans les mêmes cases, et qui pour le coup ouvre des capacités plus importantes de financement de tout ce qui est difficile à financer par ailleurs, donc tout ce qui n'est pas nouvelles fonctionnalités par exemple.
Merci Vincent. On approche de la fin et donc je vous propose chacun de prendre deux minutes maximum pour conclure. Si vous avez envie d'ajouter quelque chose, d'insister sur un point qui vous tient particulièrement à cœur, Régis, s'il te plaît.
Oui, alors pour moi, ce que je retiens de QGIS, c'est que c'est avant tout une communauté extrêmement accueillante. Donc si vous pouvez accueillir un événement, participer à un événement, allez-y, vous allez voir à quel point c'est dynamique et efficace. Et ensuite, n'ayez pas peur de venir contribuer directement via vos marchés. C'est la zone d'inconfort des géomaticiens. On sait faire de la technique, on n'ose pas faire des marchés publics. Les solutions existent pour y aller. Dès que vous rencontrez un problème, faites-le remonter, venez discuter avec la communauté QGIS-FR, avec des prestataires, ou directement en anglais si vous êtes à l'aise, avec les développeurs sources. Hein, c'est le circuit court, c'est le bio de l'informatique, le libre. Vous pouvez discuter en direct avec le développeur, c'est une chance phénoménale. Donc saisissez-la et puis n'oubliez pas de prendre le temps d'apprendre un écosystème, de ne pas plaquer des réflexes précédents, y compris pour les marchés publics et privés.
Le libre, c'est le circuit court de l'informatique. Ça restera ça. Vincent, à toi, quelques mots de la fin.
Oui, j'espère qu'on a donné envie aux gens de découvrir un peu ce que c'est le SIG et QGIS en particulier. C'est un domaine qui est très sympa parce que ça va amener à toucher à des métiers totalement divers, et puis il y a des petites images, il y a des cartes, il y a quand même un côté très attractif de ce domaine-là. Donc n'hésitez pas à plonger là-dedans, parce qu'en plus, il y a du boulot, on est toujours en recherche de nouveaux développeurs dans le projet QGIS, dans le projet, et pas que des développeurs, parce que aussi des documentaires, des gens qui font de l'infrastructure. Donc on a besoin de forces vives, et la dynamique du projet est là, la bienveillance est là aussi dans la communauté en général, et puis pour conquérir le monde et finir de remplacer Esri et AutoCAD un peu partout, on a besoin de force vive, donc rejoignez la force.
Régis Aubourg, Vincent Picavé, un immense merci d'avoir accepté l'invitation à participer à cette émission. Merci pour votre temps, merci pour votre passion, merci pour votre énergie. Et je ne peux que confirmer ce qui vient d'être dit. QGIS est un projet extrêmement ouvert, extrêmement abordable. Et même si vous n'êtes pas géomaticien, même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez faire des choses avec QGIS. Il y a même un logiciel que je qualifierais de ludique. Et avec tout ce qui se passe en ce moment autour de l'open data, QGIS, c'est un couteau suisse qui permet d'ouvrir les fichiers libérés par les collectivités pour les visualiser, pour les traiter. Et tout ça, je pense que ça laisse entrevoir des perspectives énormes. Merci encore à tous les deux et je rends l'antenne.
Écoute, merci Jean-Christophe. Nous avons donc parlé du système d'information géographique libre QGIS. Le site web principal, c'est qgis.org et toutes les références citées dans l'émission, vous les retrouverez sur causecommune.fm et sur april.org. Je remercie donc un grand merci à Régis Aubourg et Vincent Picavet. Un énorme merci à Jean-Christophe pour avoir préparé et animé ce sujet long. Et donc, je vous souhaite une belle fin de journée et que la force soit avec vous.
Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Je suis Isabelle Lavagny. Nous venons d'écouter une rediffusion d'un sujet du 9 mars 2021 sur le système d'information géographique libre QGIS. Nous allons faire maintenant une pause musicale. Nous allons écouter un morceau de piano de Loïc Bredolez, artiste d'origine néo-calédonienne. Le morceau voit la participation du DJ Fedwell, donc vous vous en doutez bien, il n'y aura pas que du piano. Je vous laisse donc découvrir A Piano Theory featuring DJ Fedwell par Loïc Bredolez sous licence libre CC BY 3.0 et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
nous venons d'écouter Piano Theory par Luc Bredolaise, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0. Et comme le disait bien mon collègue Étienne sur le salon de web chat de Libre à vous, il y avait du scratch à deux moments. Donc ça veut dire que il y avait une action humaine sur des disques vinyles pour changer la vitesse et donc faire le son que vous avez entendu à deux moments. Et Étienne rajoute, ça me fait penser un peu à Nujabes. Je connais pas ce groupe ou artiste, mais n'hésitez pas à vérifier vous-même.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis un podcast.
Je suis Isabelle Lavani, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par la chronique à cœur vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi, qui porte aujourd'hui sur le magasin d'application F-Droid. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours, je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après.
Hello Laurette, ici le service d'accompagnement F-Droid qui vient prendre des nouvelles et savoir si tout se passe pour le mieux.
Allô le service post-installation F-Droid, c'est gentil de prendre des nouvelles. Et le service d'accompagnement F-Droid va être fier de moi, car je suis parvenue à l'installer toute seule comme une grande avec les références que tu m'avais données.
Effectivement, j'en suis heureux. Ceci étant, être obligé de faire une émission de radio pour réussir à te convaincre concrètement de passer sur d'autres outils, ce n'est pas de l'optimisation fille-caille. Mais ça me donne une idée. On va faire une chronique tous les deux sur l'importance de ranger sa chambre. Qu'en penses-tu? Tu es partante?
Ah, soudain, je trouve les logiciels libres moins intéressants. Mais sinon, tu sais être sérieux des fois, parce qu'en fait, je suis vénère de ouf, là. Plus tu me fais creuser ces sujets, contre mon gré et contre grâce rétribution d'argent de poche d'ailleurs, et plus je me rends compte à quel point on se fait empapaouter du genou sur le web. C'est agaçant et je vais finir par croire que tu n'étais pas aussi illuminée.
Ou tu vas le devenir aussi, ma pauvre.
Oh, mon Dieu, non. J'espère que jamais je mettrai dans un moment d'égarement un short orange.
C'est pas un short, c'est un Bermuda.
Oui, bah, ça laisse plus de place pour mettre du orange, quoi.
On peut revenir à ton retour d'expérience d'installation et d'utilisation de Droid, ou tu as décidé de dénigrer cette très belle couleur qu'est le orange?
Bon, comme je te l'ai dit au début de cette chronique, avant que tu n'enfiles ton Bermuda orange, j'ai désormais F-Droid sur mon téléphone. Au début, je voyais pas vraiment l'intérêt, mais je me surprends de temps en temps à chercher des alternatives au magasin d'applications dominant de Google.
En me disant ça, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire pour le jour de tes 18 ans.
Normalement, c'est l'inverse. Hein. Chez les gens normaux, on reçoit des cadeaux pour son anniversaire. Mais revenons à F-Droid. Il faut que je te raconte depuis le début.
Vas-y, je ferme les yeux, je prends mon doudou contre moi, comme tu le faisais quand tu étais petite. Toi, c'était un lapin, moi, c'est mon Bermuda orange que je frotte sur ma joue.
Ouais. Déjà, j'ai pas cherché longtemps le magasin F-Droid dans le Play Store de Google. Hein. Il y est pas et on comprend vite pourquoi.
Évidemment, F-Droid va permettre d'installer des applications alternatives indépendantes de Google et va donc limiter la collecte de données. Google a donc tout intérêt à rendre compliquée cette installation pour décourager et limiter les fuites d'utilisateurs et d'utilisatrices vaches à données. Et on va voir qu'il ne lésine pas sur les moyens pour décourager.
Bon, donc, je suis allée sur le site fdroid.org, j'ai téléchargé le programme sous une forme exécutable par Android, c'est une extension APK, et c'est un peu l'équivalent du .exe sous Windows.
Ils ne se sont pas foulés, APK c'est pour Android Package en anglais.
T'aurais préféré quoi comme signification Apple pour kangourou? Je crois que kangourou c'était déjà pris de toute façon. Ça aurait été la porte ouverte à toutes les fenêtres pour des procès.
En gros, c'est donc un dossier qui contient tout ce qu'il faut pour ranger les éléments utiles dans Android et faire fonctionner ensuite le programme. J'imagine après que tu as suivi le processus alambiqué qui nécessite d'autoriser l'installation de logiciels de sources inconnues, et que tu as deviné toute seule qu'il fallait aller dans les paramètres système, puis options pour développeur, et enfin cocher la case source inconnue dans la catégorie gestion de l'appareil.
Et tout à fait. J'ai alors voulu lancer l'installation de fdroid.apk, et là, tu ne m'aurais pas donné cette capacité à être un peu solide dans les tuyaux de ma tête, je crois que j'aurais abandonné. Figure-toi que ce tartuffe d'Android m'explique texto que, je cite, Ce type de fichier peut vraiment endommager votre appareil. Voulez-vous vraiment installer le fichier fdroid.pk?
Je me demande bien pourquoi, à ce moment-là, ils ne nous mettent pas plutôt un message du type « Utiliser nos services peut endommager votre vie privée. N'hésitez pas à essayer des alternatives et à ne pas mettre vos données dans le même panier. »
Non, c'est vrai, ce serait un joli message. Ils n'ont peut-être tout simplement pas pensé. Là, j'applique leur slogan « Don't be evil », je ne suis pas vraiment malveillante à leur égard. Bon, plus sérieusement, un message plus neutre comme « Si vous êtes sûr de votre source, du site sur lequel vous avez été téléchargé le fichier, vous pouvez poursuivre », serait quand même plus honnête, moins malveillant, non?
Carrément. Mais ça fait flipper, et c'est bien le but. Bien sûr, il y a une part de vérité. Installer un fichier APK téléchargé sur un site internet louche et sans bien comprendre ce que l'on télécharge comporte un risque. Mais c'est quand même bien pratique de s'appuyer sur ce risque pour faire flipper les gens et les maintenir au maximum dans un silo de données. Et en tout cas, depuis le site en HTTPS fdroid.org, le risque est très faible. Donc, tu as poursuivi et osé braver le sinistre message. Je suis une nouvelle fois très fier de toi.
Pas si vite, papa. J'ai là, ici, présentement, le devoir de t'annoncer la mort de mon téléphone portable. Va falloir que tu me files 300 euros au moins pour en racheter un nouveau. En effet, alors que l'installation était sur le point de se terminer, mon téléphone s'est mis à fumer, l'écran s'est fendillé et mes yeux ont pleuré. C'était terrible. Ah, ils avaient raison, l'installation a endommagé définitivement mon appareil. Je veux plus vivre ça. Je veux rester chez Google.
Bien essayé, ma fille. J'y ai presque cru. Tu es mûre pour faire du théâtre ou, à minima, des chroniques radiophoniques. Donc, après, c'était comment?
Bah, plus simple que je l'aurais imaginé, en fait. La première fois qu'on lance Fdroid, il faut juste être un peu patient parce qu'il charge la liste de toutes les applications disponibles. Ensuite, on se sent envahi d'un sentiment de grande liberté. On flotte entre ciel et terre au-dessus de la baie de San Francisco, frôlant même le flambeau de la Statue de la Liberté.
C'est légèrement excessif et géographiquement très approximatif.
Ah, c'est ce que j'ai ressenti, papa, en toute sincérité, hein. Mais peut-être que je confonds la baie de San Francisco avec l'île de la Cité.
Raconte, quelles applications as-tu installées en premier? En échange, je te dirai celles qui ont ma préférence.
D'abord, je voulais vérifier que le temps numérique était cohérent avec le temps météorologique. J'ai donc installé Geometric Weather. Il pleuvait dans la réalité, et il pleuvait aussi sur mon écran. J'étais comblée. Bon, j'aurais pu aller chercher une application de parapluie, mais j'ai préféré prendre le mien pour sortir.
Parfois, il est sage de choisir la simplicité. Tu as noté au passage que Fdroid te signalait une anti-fonctionnalité pour cette application? En l'occurrence, ici, Fdroid t'informe que Geometric Weather fait la promotion ou dépend d'un service non libre sur le web. Tu peux aussi avoir un avis éclairé sur une application en utilisant le service Exodus Privacy. Ils font un excellent travail de recherche de pisteurs et partagent ces informations.
Ah oui, c'est vrai, j'ai vu cette anti-fonctionnalité. Et c'est donc en toute connaissance de cause que j'ai choisi de l'installer. J'ai estimé que je pouvais tolérer cet écart à la liberté. Je ne suis pas un tatayola comme toi. Je préfère m'émanciper à mon rythme plutôt que de m'auto-contraindre pour des outils pour lesquels je suis pas prête. Par contre, je ne perds pas le cap et j'essaye de monter une petite marche régulièrement après l'autre.
Tu as la sagesse du Dalai Lama en toi, ma fille. C'est juste sublime. Mais tu ne voulais pas savoir quel était mon appli préféré?
Oh si, bien sûr, c'est jaune et ça attend, je n'attends que ça.
Je m'en réjouis et je partage alors de ce pas. Je te recommande vivement d'installer Shattered Pixel Dungeon. En français, brisé, pixel, prison. Je sais, ça veut rien dire, mais c'est toujours bien de traduire.
Oh, mais que fait donc cette merveilleuse application libre sous licence GPL V3?
Selon le site, c'est un roguelite dungeon crawler RPG with pixel art graphics. Je vais le dire avec mes mots à moi, c'est un super jeu qui me rappelle les jeux de rôle de mon enfance où tu choisis un personnage, ici guerrier, magicien, voleur ou chasseresse, et où tu dois réussir à sortir du donjon. Ça fait déjà plusieurs années que j'y joue, mais comme c'est aléatoire et que le jeu continue d'évoluer, je ne m'en lasse pas.
Oh, mon papa le gamer fou, ça te plairait pas de faire du streaming? Moi aussi je fais du jeu de rôle avec mes potes, mais dans la vraie vie. Ah, le jeu de rôle c'est plus ce que c'était, hein.
Bon, c'est pas tout ça, je dois sortir du donjon. Et d'ailleurs, avant de rejouer, je vais contribuer financièrement, car l'auteur a fait le choix de ne pas gaver les joueurs avec des pubs et de ne pas les pister sans qu'ils le sachent. Donc, il faut soutenir financièrement quand on le peut. Taïo, Suce au Gobelin et Squelette Blanc de Jalousie devant ma côte de maille.
Bon, je te laisse mon papounet parce que je te sens chaud bouillant pour essayer de sortir de ce donjon. Hein. Bon, bonne chance et si ça se passe bien, rendez-vous à la prochaine chronique.
Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter un sujet enregistré il y a quelques jours consacré au magasin d'application F-Droid. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Notre premier sujet aujourd'hui porté sous l'association CartoNG qui participe au projet de cartographie participative Missing Maps. Eh bien, un mapathon Missing Maps aura lieu à Lyon ce soir de 18h30 à 20h30 à la Géothèque Centre Berthelot. Cette rencontre a lieu dans le cadre du Tour des France des mapathons. Le but étant d'avoir un mapathon en présentiel à chaque fois dans une ville française différente. Je vous encourage à consulter l'agenda du Libre pour vous renseigner sur les prochaines étapes du tour ou sur le site Missing Maps. Une nouvelle réunion du groupe de travail sensibilisation de l'April aura lieu jeudi 7 octobre de 17h30 à 19h30 en ligne. Nous continuerons l'élaboration du projet La Boussole du Libre, un outil pour orienter les personnes souhaitant reprendre le contrôle de leur informatique à l'aide d'une sélection de liens web. Et à l'occasion de la réunion de jeudi prochain, nous allons finaliser la sélection des meilleurs liens web pour le thème ou besoin m'initier au logiciel et services libres. Les réunions sensibilisation sont toujours annoncées sur april.org et sur l'agenda du libre. Elles sont ouvertes à tout le monde, que vous soyez membre de l'April ou pas. Et donc, n'hésitez pas à participer. Si vous habitez Quimper ou les alentours, c'est encore l'occasion d'aller voir l'exposition des ordi libres Partage et solidarité dans le numérique, qui sera en fait affiché dans l'espace associatif Maison Valdec-Rousseau jusqu'au 29 octobre. Pour tous les autres événements, je vous invite à consulter l'agenda du Libre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Martha Noblecourt, Jean-Christophe Becquet, Régie Aubourg, Vincent Picavet, Laurent et Laurette Costi. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production de podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Langen, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la Radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 26 octobre 2021 à 15h30. Nous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien.